il est clair et évident. Et c'est un principe fondateur de l'islam. Ouvrez bien vos oreilles. Il y a des principes fondamentaux dans notre religion. Un des principes fondateurs et fondamentaux de notre religion, c'est que l'islam est contre la difficulté. L'islam est venu pour remettre en question une compréhension, une approche de la religion erronée qui existait avant. Vous savez c'est quoi? C'est plus tu souffres, plus tu es proche de Dieu. Plus tu galères, plus tu es musulman. Hein, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui croient, jadis et encore aujourd'hui, que l'objectif de la religion, c'est de faire supporter à l'être humain un fardeau insupportable au nom de Dieu. Pourquoi ? Pour prouver que j'ai la foi, je suis un super musulman, t'as pas vu comment je galère. T'as rien compris. T'as rien compris à l'islam. Le propre de l'islam, vous savez c'est quoi ? C'est de remettre en question cette approche de la religion. Une approche qui est contre la nature et le bon sens. C'est quoi la nature? C'est qu'Allah nous a créé avec un corps qui a des limites, un corps qui a des besoins. Et si jamais tu remets en question cette nature, tu ne te rapproches pas de Dieu, au contraire, tu es contre Dieu et tu es en opposition avec la volonté de Dieu. Car, ouvrez bien vos oreilles, notre corps qui est la créature de Dieu, notre corps qui est une créature de Dieu, doit être respecté. Par qui ? Par l'homme lui-même et par la religion. En d'autres termes, la religion de Dieu, qui s'appelle l'islam, n'est pas venue détruire le corps, n'est pas venue faire souffrir le corps. Allez, la théorie, la religion, est en adéquation avec le corps, la création. C'est-à-dire, ce que Dieu nous autorise, ce qu'il nous interdit, ça n'a pas pour objectif de remettre en question notre santé, notre stabilité. Au contraire, l'islam est venu pour protéger notre corps et notre esprit et nos biens. On vit en ce moment, depuis déjà quelques jours, quelques semaines, une difficulté incontestable. Il faut être fou pour dire le contraire. C'est quoi? C'est la prière de la nuit et la prière du matin. C'est une vraie galère. Plus le temps avance, jusqu'au 21 juin, le solstice d'été, plus l'Isha est tard. Il est déjà maintenant 11h30, minuit moins 20. Dans 15 jours, il sera minuit et quart. Et si tu es normalement constitué, tu es obligé de reconnaître que tu galères à prier l'Isha à l'heure. Parce que si tu le pries à minuit et quart, déjà tu es dans le gaz, hein, pour parler vérité. C'est même pas l'Isha que tu fais, c'est de la gymnastique, vite fait, mal fait pour aller dormir. Ce qui est naturel, hein, attention, hein. Okay. Et deuxièmement, tu trahis l'esprit de l'islam, tout simplement. L'islam qui ne veut pas que tu sois dans cette situation, dans cette galère. Un jour, le prophète, alayhi salam, dans sa mosquée, avançait. Zido, remplissez les trous. Ouais, il n'y a pas de place derrière. Allez-y, remplissez les trous, serrez-vous. Celui qui bouche un trou, qu'est-ce que dit le hadith? Bref, celui qui bouche un trou, il fait quelque chose de bien. Donc remplissez, voilà, Zido. Non. Voilà. Et ouvrez les portes, les femmes, ouvrez vos portes, comme ça fait courant d'air. Le prophète alayhi salam entre dans sa mosquée, il y a un pilier et il trouve deux ficelles. Il dit, qui a mis ces ficelles ici? On lui dit, c'est ta femme Zainab. La nuit, quand elle prie et elle est dans le gaz, elle est fatiguée, elle attache sa tresse au pilier, comme ça quand elle tombe, hop, la ficelle la retient. C'est ce que le prophète alayhi salam a dit. Enlevez-moi ça. Priez tant que vous êtes en forme. Vous êtes fatigué, vous dormez. Vous entendez? Priez tant que vous êtes en forme. Vous êtes crevé, allez dormir. Parce que quand tu pries, tu es dans le gaz. C'est ce que tu vas faire. Le prophète alayhi salam a dit, priez tant que vous êtes lucide, sinon vous allez insulter Dieu. C'est-à-dire, au lieu de dire ce qu'il faut, tu vas dire le contraire parce que tu es dans le gaz. Il faut être à jeun quand on prie, mais il faut surtout être lucide d'esprit, être en forme pour accomplir sa prière comme il se doit. Donc il est clair et net que on a une difficulté. Et pas la moindre des difficultés, c'est l'horaire de l'Aïcha qui est tard, l'horaire de Sobh qui est tôt, et entre les deux, il y a à peine 3 heures de sommeil. Et vous êtes tous d'accord que le sommeil de la nuit, c'est lui le sommeil réparateur, le vrai sommeil, celui du jour. Bon, c'est quand t'as pas le choix. Et vous êtes tous d'accord que si vous réveillez le matin 6h, 7h pour aller au travail ou aller à l'école et que vous n'avez dormi que 3h, 4h, la journée, vous êtes inefficace. Vous êtes même dangereux pour ceux qui font du déplacement en voiture. Oui ou non? funèbre, tu finis à 5h30, 6h, tu dois faire 150 km en voiture, tu n'as dormi que 3 heures. Wallah, tu es un hyper dangereux, tu es comme un alcoolique. Oui, tu peux tuer. Et c'est vrai, on s'endort en conduisant parce qu'on n'a pas dormi assez. Alors ouvrez vos oreilles. Cette religion n'est pas venue mettre les gens dans la difficulté. Au contraire, le propre de l'islam, c'est de lever les obstacles et les difficultés. « Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj » Dieu dit dans le Coran à 4 reprises. Pas une fois, hein, parce que parfois il y a des sourds et des malentendants. Vous savez, ils ont peur. Ils ont peur d'adhérer à une dérogation. Vous savez, c'est « Non, non, on ne peut pas faire le maghrib avec l'Aïcha, tu imagines, non. » Vous savez, ils ont peur de la souplesse. Et ils aiment la difficulté et la galère. Alors pour ces gens-là, Dieu le répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour leur dire « Oh, comprenez, il n'y a pas de gêne dans la religion. Si tu es dans la gêne, la religion t'ouvre une autre porte qui s'appelle la souplesse, la dérogation. Sors de la gêne, sors de la difficulté, sors de la galère parce que si tu veux adorer Dieu comme il se doit, il faut que tu sois bien dans ta peau, il faut que tu sois bien dans ta tête. » Alors vous savez ce que ça veut dire prier à l'heure? Ça veut dire prier à l'heure que le prophète a définie, pas l'heure que tu veux toi. D'accord? C'est pas toi la règle, c'est pas toi la référence. La référence c'est le prophète alayhi salam. Et comment le prophète nous a expliqué les horaires de prière? Ah, lisez. Ou bien écoutez. Prenez le Sahih de l'imam Bukhari et de Muslim, qui sont les deux livres de hadith authentiques après le Coran, et vous allez voir que Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète les horaires de prière. Il est venu à 14h l'heure de Dohr, le lundi, et le lendemain, mardi, vous savez à quelle heure il est venu? Il est venu à 18h, juste avant l'Asr. Et il a dit au prophète, entre 14h et 18h, ça s'appelle Dohr. Tu fais Dohr à 14h quand tu es prêt, mais si jamais tu n'es pas prêt ou tu ne peux pas, tu le fais à 15h, 16h, 17h, 18h, tant que tu l'as fait avant l'Asr, tu as fait Dohr à l'heure. Et même chose pour qui? Pour l'Asr. Tu fais l'Asr à 18h, si c'est le début de son heure, et pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas pu le faire à 18h, tu le retardes, tu le repousses, tant que tu l'as fait avant le Maghrib, tu as fait l'Asr à l'heure, car le prophète alayhi salam dit dans le Sahih de l'imam Muslim, celui qui arrive à faire une rak'at de l'Asr avant l'appel à la prière du Maghrib, et les trois autres rak'at de l'Asr après l'appel de la prière du Maghrib, il a fait l'Asr à l'heure. Vous entendez? Hein? Tant que tu as réussi. Même chose pour le Maghrib. Avant l'Aïcha, ça s'appelle le Maghrib. Tant que tu as fait le Maghrib avant l'Aïcha, tu as fait El Maghrib à l'heure. Même chose pour l'Aïcha. Tant que tu as fait l'Aïcha avant Subh, tu as fait l'Aïcha à l'heure. Même chose pour Subh, si ce n'est que tu dois le faire avant le Shuruq, avant le lever du soleil. Si Subh commence à 4 heures et le lever du soleil est à 5h30, tu as la possibilité de faire Subh entre 4h et 5h30. Tu as la possibilité de le faire dès l'entrée de la prière ou tu le retardes au maximum pour les raisons suivantes. Il est clair et net que le prophète alayhi salam regroupait ses prières quand il était en voyage, quand il était malade, quand il avait des intempéries. Il pleut, il vente, il neige, il y a de la boue, les conditions atmosphériques ne sont pas en ta faveur. Il regroupait même les prières quand il avait peur tout simplement. Et il les a regroupés aussi pour une autre raison. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, un jour, dans la ville de Bassora, al-Basra, il donnait un cours. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai prié aux côtés du prophète alayhi salam à Médine dans sa ville, donc il n'est pas en voyage, et il a fait 8 rak'at et 7 rak'at. Il a fait 8 rak'at, c'est-à-dire Dohr et l'Asr, 4 Salamu alaikum, et ensuite il a fait 4 de l'Asr, et il a fait 3 du Maghrib et 4 du Isha, alors qu'il n'était ni en voyage, ni malade, les intempéries n'étaient pas là. Voilà, le hadith il est clair et net, il est rapporté par l'imam Muslim, il est rapporté par Abu Dawud al-Tiyal ici, par l'imam Ahmad, par des dizaines de narrateurs et de rapporteurs du hadith. Il est authentique, il est limpide, il est clair et il est super surtout, n'est-ce pas? Puisqu'il vient de nous donner la possibilité et l'autorisation de faire quoi? De faire le Maghrib à 10h moins quart et juste après tu fais l'Aïcha. Donc tu vois, l'Aïcha tu l'as tiré, tu l'as ramené à l'heure du Maghrib pour pouvoir dormir tôt, se reposer afin que l'on se réveille pour la prière du matin, à Subh, et ensuite on va bosser parce qu'on a dormi, alhamdoulilah, 6h, on a dormi 7h, c'est largement suffisant pour quelqu'un de normalement constitué. Et voilà. Vous avez vu que tout problème a une solution. Vous avez vu que l'islam a pour objectif de nous sortir de la difficulté et de la galère et de ne pas nous laisser dedans. Après ce hadith clair et net, y a-t-il encore matière à discuter ? Y a-t-il encore matière à ne pas mettre en pratique cette sunna du prophète alayhi salam ? Non, ce n'est même pas une sunna. Vous savez qu'est-ce que c'est ? C'est un principe fondamental de l'islam. T'es dans la galère doit disparaître et doit être remplacée par la facilité. Donc, regroupez vos prières à partir de maintenant, sans aucune gêne, sans aucun remords, parce que c'est ce que notre prophète alayhi salam a fait pour nous montrer que l'islam n'a pas pour objectif de nous mettre dans la difficulté. La preuve, quand Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète a regroupé les prières, il y a un compagnon, il y a un élève qui est assis, qui lève la main et qui lui dit « Maître, pourquoi t'il fait cela ?» alors qu'il n'est ni malade, ni en voyage et il n'y a pas d'intempéries. T'as l'air de dire « Il a fait cela sans raison apparente valable. » Réponse de Abdullah ibn Abbas. Et vous savez qui est Abdullah ibn Abbas, hein ? Après les quatre califes orthodoxes, c'est lui. Ouais. Au-dessus, il y a le soleil. Vous entendez, hein ? On l'appelle Hibrul Umma, le savant de la communauté. Celui à qui le prophète alayhi salam a fait une dua en disant « Au Seigneur, donne-lui la connaissance et le savoir de quoi ? De la religion, du Coran. » C'est l'exégète de Al-Mufassir, de notre communauté. C'est, bref. Ok. Pourquoi ? Dis-nous. Donne-nous une explication. On veut comprendre.
On lit un verset du Coran qui nous dit qu'il faut faire la prière à l'heure. Il y a des hadiths qui disent qu'il faut faire la prière à l'heure.
Et maintenant, tu es en train de nous dire qu'on peut les regrouper ? Il y a une contradiction apparente. Tu nous choques. On n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on entend ça. Et Abdullah va leur répondre. Vous savez pourquoi le prophète les a regroupés ? Écoutez, je vais vous le dire en arabe. Likay la yuhrija ahadan min ummatihi, pour ne mettre personne de sa communauté dans la difficulté, dans la gêne. Il a fait ça exprès pour nous. Il a fait ça pour nous donner, pour nous ouvrir une porte, pour nous dire, ô musulmans de France et de Navarre, en 2012, quand vous serez dans la galère à cause de l'Aïcha, qui sera minuit et quart et que le lendemain vous êtes fatigué, bah vous faites le maghrib avec l'Aïcha. Moi, je voulais autoriser prophète de la miséricorde et de l'amour, et le prophète du réalisme et du pragmatisme, car cette religion n'est pas venue, vous savez, pour remettre en question le bon sens. Très bien, normalement, ça devrait suffire, mais peut-être qu'il y a des irréductibles. C'est pas grave. Il y a un autre hadith dans le même livre de l'imam muslim qui vient juste après. C'est quoi ce hadith ? C'est à nouveau Abdullah ibn Abbas qui donne cours cette fois. Il est en train de faire une conférence. Une conférence qui ne veut pas s'arrêter. Il a commencé à l'Asr. C'est l'heure du Maghrib. Normalement, on fait quoi quand c'est l'heure du Maghrib ? On fait l'appel à la prière, on arrête, on fait la prière. Oui, bah attendez deux secondes. C'est ce que fait Abdullah ibn Abbas. Il continue sa conférence. Il ne la continue pas 5 minutes, ni 10, ni 15, ni une demi-heure. Vous savez, il la continue jusqu'à un moment donné où on voit les étoiles. C'est ce que ça veut dire, on voit les étoiles. C'est-à-dire, il fait noir. C'est l'Aïcha. Et là, il y a un mec qui pète les plombs dans la salle. C'est ce qu'il fait, il se met debout et il crie dans la salle. As-salat, as-salat, c'est la prière, c'est la prière. Ouais, c'est l'heure là, oh, c'est le maghrib là, tu fais quoi ? Vous avez entendu ? C'est de l'impolitesse déjà. Tu t'imagines, le savant est en train de parler, et pas n'importe lequel, et tu le coupes. Déjà, c'est impoli. Deuxièmement, c'est un manque de respect. Elle est où la hiérarchie ? T'es plus savant que lui ? Tu sais mieux que lui si c'est l'heure de la prière ou non ? Allez, l'ignorant veut donner des leçons à qui ? Aux savants. Et c'est une catastrophe. Et ces gens-là qui ont fait ça, Abdullah ibn Abbas, cette personne, il a des sosies, des clones. Ouais ? Ce sont ces gens-là qui veulent être plus royalistes que le roi, qui par la suite vont prendre les armes. Pas les armes intellectuelles, parce que là, Abdullah va le remettre en place dans deux secondes. Hein. Non, ils ont pris l'épée et ils ont combattu Abdullah ibn Abbas et Ali ibn Abi Talib et les compagnons. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une compréhension, une approche de la religion extrémiste. Mais réellement, hein, c'était des fanatiques, c'était des malades du cerveau. Vous savez ce que va lui dire Abdullah ibn Abbas ? Il va lui dire « Tais-toi, la ummalak ouais, !» Une petite insulte, bien comme il faut. Ouais. Tais-toi, il lui a dit. La ummalak. Atu'allimuni salat. Tu veux m'apprendre la prière. Dans une autre version du hadith, il lui dit « Atu'allimuni sunnata ?» Tu veux m'apprendre la sunna du prophète ? T'es qui pour me donner des leçons ? Je sais ce que je fais. J'ai prié avec le prophète et il a fait le Maghrib et l'Aïcha et il a fait Dohr avec l'Asr. Donc tu vas t'asseoir et tu vas te calmer, tu vas te taire. Ce que je suis en train de faire, c'est important. On fera le Maghrib avec l'Aïcha et on sera dans l'orthodoxie, on sera dans le droit chemin, on sera dans la sunna. Très bien. Si vous avez compris tout cela, la porte est ouverte, grande ouverte, sans aucune gêne. Ne vous mettez pas dans la difficulté, ça ne sert à rien du tout. Dormez pour être en forme le lendemain, pour assurer vos responsabilités. Et même si tu ne travailles pas le lendemain, même si tu n'as pas l'école le lendemain, même si tu n'as pas de rendez-vous le lendemain, la normale veut que tu dormes au maximum vers 10 heures. Ne dépasse pas 10 heures parce qu'après, tu es dans le gaz, ton sommeil n'est pas bon. Point final. Vous allez me dire, ouais, mais je fais le Maghrib et l'Aïcha, j'arrive à la maison et puis je dors pas tout de suite, je regarde un peu la télé. Et alors ? Et alors, vous croyez que le prophète, alayhi salam, il a fait le Maghrib et l'Aïcha, il est parti dormir ? C'est faux. Il a fait le Maghrib et l'Aïcha, point à la ligne, il n'est pas parti dormir. Donc, ne posez pas de conditions. On fait le Maghrib et l'Aïcha quand on est fatigué, parce qu'on veut dormir. C'est faux. Vous sentez le besoin de faire le Maghrib et l'Aïcha. Vous faites le Maghrib avec l'Aïcha et personne n'a à vous condamner et dormez la conscience tranquille. Et même Dohr avec l'Asr, vous pouvez le faire. Alors, c'est évident que c'est l'exception. Ce n'est pas ça la règle. La règle, c'est de faire sa prière au début de l'heure, mais de temps en temps, surtout pendant cette période de difficulté, c'est permis.
On a des solutions à tous les problèmes. Il reste la prière de Subh le matin. Dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, l'heure préférée de la prière du matin, c'est le dernier quart d'heure. Vous entendez ? Il y a des hadiths qui parlent de ce qu'on appelle al-ghalas, c'est-à-dire quand il fait très noir juste au début, la première heure. Et puis, on a toujours des exceptions, on a toujours des dérogations. Ainsi, pour le subh, vous le retardez au maximum. Si le shuruq est à 5h30, vous mettez votre portable à 5h15, vous avez un quart d'heure pour faire la prière. Et même si vous avez commencé la prière de subh avant le shuruq et vous la terminez après le shuruq, vous avez fait la prière de subh à l'heure, puisque Omar ibn al-Khattab, il lui est arrivé de commencer subh et de le finir après le shuruq. On lui a fait la remarque et il a dit à nouveau « Que ta mère te perde !» On a prier, on n'était pas en train de dormir, c'est-à-dire, on a commencé en temps et en heure, et si on le dépasse, c'est pas grave. Donc, cette religion est la religion de la souplesse, il faut la garder souple, sinon nous allons pousser les gens à quoi ? À faire l'hypocrite, nous allons pousser les gens à délaisser la pratique. Il faut arrondir les angles quand nous n'avons pas le choix. Ceci étant dit, n'oubliez pas demain pour les infos, Inch'Allah, demain on est samedi, c'est ça ? Et ici, dans votre mosquée bénite, nous avons l'honneur de recevoir deux personnages extraordinaires. Le premier, le professeur Tariq Ramadan, que vous connaissez. Donc, à 13h30, il commence. Hein, ça sera sans pitié, vous verrez, parce que son timing est juste. Donc, soyez là à 13h, voire à 12h30, hein, pour avoir une place. Donc, 13h30, hommes, femmes et enfants, et vos voisins surtout, ok ? Hein, vous leur dites, Monsieur Ramadan qui a fait la une de la campagne présidentielle, ben, il va venir s'expliquer. Il va vous dire pour qui il a appelé à voter et contre qui il a appelé à voter. Donc ramenez-les pour qu'ils voient du Ramadan en direct et qu'ils l'écoutent en direct. Ça leur fera de la da'wa en direct, ok ? Sans passer par des intermédiaires pas toujours très honnêtes. Juste après Tariq Ramadan, une dédicace, et après notre frère Omar Lasfar, qui, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Non, vous le connaissez. Qui ne connaît pas Omar Lasfar ? Il y a un frère qui l'appelle le calife du Nord-Pas-de-Calais. D'accord ? Le calife des musulmans, fondateur de la mosquée de l'île Sud et surtout du lycée Averroès, c'est ça ? Non, le collège-lycée maintenant. Eh oui, ils ont reçu l'autorisation pour ouvrir le collège. Donc en septembre, Inch'Allah, on aura le collège Ibn Rushd et le lycée Ibn Rushd. Comme ça, au moins, vos enfants, ils peuvent être pendant 7 ans dans une structure, alhamdoulilah, privée musulmane. Donc vous pouvez être fiers, l'islam avance, grâce à qui ? Grâce à Omar Lasfar et d'autres. Mais ici, dans le Nord, c'est lui qui est derrière le lycée Averroès et son équipe. Ne serait-ce que pour le remercier, il faut être là et l'applaudir, parce que ça a été une vraie galère. Vous entendez ? Ça a été une vraie galère. Si Omar Lasfar n'avait pas été là, le lycée n'aurait pas vu le jour. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a mis tout son argent dans le lycée. Vous entendez ? Omar Lasfar, son argent personnel, il l'a pris et il l'a mis dans le lycée. Et c'est grâce à lui que le lycée a tenu pendant 4 ans. Grâce à son apport financier personnel. Vous entendez ? Nous, on fait des économies, on les cache, etc. Lui, ce qu'il gagne, il le mettait dans le lycée. Parce que c'était la galère, hein. C'était déficit chaque année. Donc, il est là demain, Inch'Allah, pour nous parler de ce que vous savez. Vous venez le ventre vide, barbecue à volonté, donc allez-y sans restriction. Venez avec vos enfants, ils seront accueillis en bonne et due forme. Vous avez le temps qu'il fait, château gonflable à volonté toute la journée. Je vous demande juste une chose, vous savez laquelle ? C'est de venir avec le souci de participer à cette journée bénite, Inch'Allah. Vous ramenez le maximum de personnes, musulmans, non-musulmans, pratiquants, non-pratiquants. Il n'y a personne qui peut interdire à quelqu'un d'entrer à la mosquée. Deuxièmement, essayez de venir les poches pleines. C'est des gâteaux, des chocolats, des bonbons. Et distribuez à volonté. Ouais. Celui qui met quelque chose dans la bouche de quelqu'un fait une sadaqa. C'est ça ? Hein ? Tu mets un bonbon dans la bouche d'un enfant, une sucette, tu as fait une sadaqa. Essayez d'acheter 100 sucettes. Ça fera 100 sadaqas demain, ouais, 100 Ferrero Rocher. Ouais, mais donnez pas aux enfants les Ferrero Rocher. Ouais, ils savent pas les apprécier. Ils les bouffent sans pitié. Mais tu t'imagines, tu viens avec deux trucs de Ferrero Rocher et tu distribues ça à tes frères musulmans, hein, à la sortie. Tous ceux qui veulent partir, tu leur colles un Ferrero Rocher dans l'estomac. Est-ce que, vous imaginez l'impact ? Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir ? Ça fait plaisir pour celui qui le mange. Le jour où vous ressentirez le plaisir en donnant, comme vous ressentez le plaisir en prenant, vous pourrez dire que, alhamdoulilah, je commence à être un bon croyant. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne serez de véritables croyants que si et seulement si vous donnez ce que vous aimez. Vous entendez ? Ce que tu aimes, tu te prives et tu le donnes aux autres. Ensuite, vous respectez ce qu'on a dit il y a un mois, je crois. Ouais. Hein, quand vous voyez un papier par terre, vous le ramassez. C'est ça ? Le faire tomber, c'est même pas la peine, ça. Donc tout le monde est responsable de ce qui se passe à la mosquée et sur le trottoir de la mosquée. Hein, il n'y a pas de concierge ici, il n'y a pas de femme de ménage. C'est des gens volontaires qui veulent gagner des hasanats. C'est pour ça qu'il y a parmi vous des jeunes en pleine forme. Venez bosser, travailler. Ouais, venez, laisse-moi, je vais te remplacer. Wallah, il y a des jeunes, il reste 6-7 heures à faire des merguez toute la journée. Pourquoi on ne se dit pas, je vais aller donner une demi-heure, fils Abilillah. Je vais aller faire du jihad. Le feu, il y a le feu des merguez, hein. Le barbecue, c'est waouh. Allez le faire. Allez dire au frère, va te reposer, t'es au soleil depuis ce matin, je vais prendre ta place pendant une heure, pendant une demi-heure. Hein, il faut avoir ce sentiment de participer à quoi ? À tout travail qui a pour objectif de faire avancer notre religion. Votre présence est nécessaire, c'est clair et net, mais votre implication et engagement est doublement nécessaire. Ok ? Vous êtes responsable de ce qui se passe ici parce que nous sommes une communauté et une communauté doit être solidaire. On est d'accord, Inch'Allah ? Vous venez tous. Et puis, on a décidé de lancer une campagne d'adhésion. Ouais. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a, je crois, 80 adhérents, ouais, qui donnent 20 euros par mois. C'est pas normal. Al-Jumu'a, là, on est à peu près 400-500. Il devrait y avoir au minimum 450 personnes qui cotisent tous les mois pour que la mosquée fasse encore mieux et avance encore mieux. Allah ybarak fikoum, comme vous cotisez chez SFR, Bouygues, Free, cotisez avec Allah. Et c'est la meilleure des cotisations. Vous entendez ? Prenez un abonnement avec Dieu. Faites un prélèvement automatique avec Dieu. Et vous verrez que Dieu, il ne va pas détourner de l'argent de votre compte, il ne va pas vous arnaquer. Au contraire, plus vous lui donnez, plus il vous donne. En vérité, vous donnez pour vous. Hein, okay ? Je ne suis pas en train de faire la manche. Hein. D'accord ? Vous ne me donnez rien du tout, vous ne m'apportez rien. Je suis en train de vous sensibiliser au souci de prendre la responsabilité de l'islam et de la communauté. Il n'y a qu'une manière de le faire. Ta présence, tu ne peux pas venir bosser, donner 2 heures par semaine, donne 20 euros par semaine et va-t'en, par mois. Va-t'en, laisse. Inch'Allah, si on a 400 cotisants, on pourra employer 2 personnes qui vont faire tourner la mosquée comme il faut. Voilà, si on n'a pas d'argent, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez que le nouveau gouvernement, le nouveau président, il nous donne des subventions. Il ne nous donnera rien du tout. Pourquoi ? Parce que c'est une mosquée. On est dans la laïcité, du moins. Astaghfirullah. Ouais. Il y a des églises hein, qui sont subventionnées, des synagogues. Nous, pas encore. Pourquoi ? Parce que on ne vote pas. Sans transition, hein. Vous avez compris ? Les législatives approchent. C'est dans 15 jours. C'est bon, vous avez commencé à choisir votre candidat. Toujours la même chose. Choisissez le meilleur. S'ils sont tous pourris à vos yeux, ce qui est faux, mais admettons, choisissez le moins pire de tout cela. Mais en tout cas, voter est une obligation pour assumer notre citoyenneté et pour affirmer notre présence. Parce que maintenant, ils parlent d'un vote musulman. Avant, ils n'en parlaient pas. Maintenant, les statistiques sont sorties. Ils disent que 93% des musulmans de France ont voté pour Hollande. Non, ils ont voté contre Sarko. Ouais, ils n'ont pas voté pour Hollande. Ils ont voté contre Sarko. C'est officiel, 93%. Comme les mêmes statistiques disent que 92% des Français binationaux, c'est-à-dire qui ont la nationalité française et israélienne, ont voté en Palestine, en Israël, 92% pour Sarko. Vous entendez ? Donc c'est clair et net qu'il y a un vote musulman. Voilà que ce vote musulman, il doit encore augmenter et s'affirmer de plus en plus avec un vote intelligent. On est d'accord, Inch'Allah ? Ben, je vous souhaite une bonne journée demain. Hein, si vous arrivez à ramener quelqu'un, vous avez gagné. Car si quelqu'un devient musulman grâce à vous, c'est mieux que la terre. Est-ce qu'il y a dedans. Et si quelqu'un était l'ennemi de l'islam, il devient l'ami des musulmans, c'est mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. Donc, faites de la pub, ramenez du monde le plus tôt possible. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.